avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, seconde semaine de campagne présidentielle au Burkina Faso. Les attentats de Paris vont-ils avoir des répercussions sur les politiques d'accueil des migrants? Chute des investissements chinois en Afrique. Bonne nouvelle, le dernier malade d'Ebola est guéri en Guinée. Et enfin, nous ferons un détour par le forum consacré à l'éducation des jeunes filles à Bamako. Voici tous les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel Plus. Restez avec nous. Au Burkina Faso, seconde semaine de la campagne pour la présidentielle du 29 novembre. 14 candidats sont en lice pour ce premier scrutin post-Compaoré. Pour le géographe Drissa Diarra, ce scrutin est réellement compétitif.
Évidemment, tout le monde a sa chance parce que chacun des candidats croit effectivement à sa victoire. On constate cela déjà. Et l'autre avantage ici est que le gouvernement de la transition joue, en tout cas, dans la mesure de sa possibilité, la carte de la neutralité. Conséquence, dans cette présidentielle, les moyens de l'État ne peuvent être utilisés comme dans les temps passés en tant que tel. Donc, cela remet du point de vue de l'utilisation des moyens de l'État, les véhicules, etc., les candidats sur un pied d'égalité. Conséquence, je peux dire que chaque candidat a sa chance du point de vue des moyens de base.
On voit qu'il y a 14 candidats, mais il y a seulement deux femmes. Comment on peut expliquer cela?
C'est la réalité politique qui est comme ça dans notre environnement politique. Les femmes hésitent effectivement à rentrer dans la politique. Même celles qui veulent y rentrer, effectivement, elles n'ont pas cette facilité-là, toujours. Parce que le terrain politique est un peu craint. Tout le monde veut que la femme s'engage effectivement sur le terrain politique pour s'affirmer, mais personne ne veut que sa propre femme s'engage. Et généralement, ce sont les femmes qui arrivent vraiment à s'affirmer, qui ont une forte personnalité, qui arrivent à faire cela. Et il ne faut pas oublier, la politique aussi, c'est le savoir intellectuel. Si on fait un sondage, en fait, à l'école également, on va constater une certaine disparité entre effectifs garçons et puis effectifs femmes. Cela se répercute nécessairement sur le terrain politique. C'est ce qui peut expliquer cette disparité criarde.
Le géographe Drissa Diarra qui répondait aux questions de Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Les attentats de Paris pourraient avoir des conséquences désastreuses pour les réfugiés, s'inquiète le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Certains pays européens, certains États américains ont commencé à revoir leur politique d'accueil par peur du terrorisme, alors que les réfugiés sont souvent les premières victimes de l'extrémisme. L'éclairage du porte-parole du HCR pour l'Europe, William Spindler.
Il faut se rappeler que l'écrasante majorité des personnes qui arrivent en Europe fuient la persécution ou les conflits et qui n'ont pas d'autres alternatives pour trouver la sécurité. Et ils fuient justement le terrorisme perpétré par ceux qui sont responsables des attentats de Paris. Bon, partout, il y a eu des réactions en Europe, aux États-Unis, etc., de la part de certains politiciens qui préconisent de mettre fin au programme actuellement en œuvre, les responsabilités acquises par les différents gouvernements pour gérer la crise des réfugiés. Ça nous préoccupe parce que justement, ils tentent d'y abolir les réfugiés en faisant des amalgames entre les réfugiés et les terroristes. Et c'est justement ces programmes de réinstallation ou de transfert dans des autres pays qu'il faut faire pour diminuer la possibilité des problèmes de sécurité. Justement, c'est cette alternative légale pour accéder en sécurité qu'il faut faire. Au lieu de la situation qu'on a dans l'instant, qui est une situation pratiquement chaotique, où c'est les personnes qui arrivent eux-mêmes par leurs propres moyens. Il faut savoir que les réfugiés vont continuer à arriver et c'est aux États à décider s'ils vont arriver d'une manière organisée, légale, ou s'ils vont arriver par leurs propres moyens, qui peut avoir plus de risques. Et de cette manière, ils auront moins de dangers eux-mêmes de souffrir des dangers en route, mais aussi les pays qui vont les recevoir auront aussi beaucoup plus de sécurité parce qu'on aura beaucoup plus de contrôle sur les personnes qui arrivent.
Alors le HCR insiste sur le fait de préserver l'intégrité du système d'asile et vous dites que sécurité et asile en Europe ne sont pas incompatibles. En fait, comme vous venez de le dire, il s'agit tout simplement d'un meilleur contrôle.
Tout à fait. Le contrôle est essentiel pour la sécurité des pays qui vont recevoir les réfugiés, mais aussi pour donner de la protection aux personnes vulnérables. Et justement, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés énonce précisément et exclut explicitement de son champ d'application les personnes ayant commis des crimes graves, y compris le terrorisme.
William Spandler, porte-parole du HCR en Europe, joint à Genève par Nathalie Barge. Les investissements chinois en Afrique ont chuté de plus de 40% durant le premier semestre. Le ralentissement économique du géant asiatique a entraîné une baisse drastique de sa demande en matières premières. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint le directeur du site Chine Africa, Sébastien Lebelzik.
C'est pas une surprise, on s'attendait à une chute brutale de cet ordre-là. Il faut savoir que depuis le début de l'année, on a senti un ralentissement considérable de deux éléments principaux. D'abord, effectivement, ces investissements directs étrangers en Afrique, donc qui concernent la Chine. Il faut savoir qu'essentiellement, ce sont des investissements dans les infrastructures minières et pétrolières. C'est-à-dire que les grandes entreprises d'État chinoises investissaient énormément en Afrique afin de sécuriser leur approvisionnement. Ça veut dire que lorsqu'ils construisaient un puits de pétrole ou qu'ils exploitaient une mine, il y avait autour toute une série d'investissements comme des routes, parfois des écoles, des barrages pour l'électricité. Et donc ça générait de gros flux d'investissements dans ces pays africains. Et donc cela a considérablement baissé et c'est lié en fait au deuxième élément de ces statistiques, c'est lié à l'effondrement de la demande chinoise en matières premières qui a chuté, elle, depuis le début de l'année, de 43%. Donc c'est une baisse énorme de la demande chinoise et c'est donc ce contre-coup qui provoque aujourd'hui l'effondrement des investissements chinois.
Alors la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009, mais au-delà de l'économie, est-ce que la Chine a aussi finalement développé son partenariat culturel avec le continent africain ?
Ces investissements économiques ont généré un afflux important de populations chinoises, expatriées, diplomates, ouvriers sur place. On parle de 2 millions de ressortissants chinois installés sur le continent africain. Et donc, également, il y a une certaine curiosité également des Africains, puisque les étudiants africains constituent la première population de boursiers en Chine. La Chine est la première destination pour les étudiants africains qui partent étudier à l'étranger depuis cette année. Et donc, effectivement, derrière ces investissements économiques, il y a ces échanges économiques, il y a des échanges culturels, il y a des instituts Confucius qui sont construits un peu partout en Chine, dans lesquels on apprend le mandarin, parce que pour faire des affaires avec la Chine, il faut parler chinois, tout simplement. Et donc, effectivement, il y a toute une série d'échanges économiques, culturels, mais aussi politiques qui sont mis en place derrière cette Chine-Afrique, finalement.
Vous parlez de politique. Pékin avait toujours tracé la ligne du non-interventionnisme dans les affaires africaines. Est-ce toujours le cas, selon vous ?
Là encore, les lignes sont vraiment en train de bouger, puisque La Chine ayant tellement investi sur le continent africain, elle se doit de sécuriser ses investissements. Lorsque l'on dépense des centaines de millions de dollars pour construire une raffinerie au Sud-Soudan, par exemple, on doit absolument la protéger des pillages, mais également maintenant des attaques terroristes. Donc la Chine a commencé à évoluer sur ce terrain-là, de deux façons. D'abord, elle a pris de plus en plus d'importance dans les opérations de maintien de la paix en Afrique, notamment. Et donc maintenant, c'est un grand pourvoyeur de casques bleus sur le continent africain. Elle est présente au Mali, elle est présente au Sud-Soudan. Et donc, elle constitue maintenant, elle alimente les casques bleus avec des troupes combattantes, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est une évolution très importante. C'est les négociations qui sont en cours actuellement pour l'installation d'une base militaire chinoise permanente à Djibouti, juste à côté de la base militaire américaine de Camp Le Meunier. Et donc, il devrait y avoir sur place prochainement, un général chinois était là-bas le week-end dernier pour négocier les derniers détails avec le gouvernement djiboutien, donc véritablement, c'est en train d'avancer. Il devrait y avoir très prochainement une base militaire permanente à Djibouti, à côté de la base militaire américaine, de la base française et de la base japonaise. Donc Djibouti va véritablement devenir un carrefour militaire dans cette corne de l'Afrique. Alors les Chinois disent que c'est d'abord pour participer aux opérations anti-piraterie dans le golfe d'Aden et donc protéger leur cargaison, leur porte-container. Mais évidemment, lorsqu'on a des troupes dans la région, on ne peut pas s'interdire d'avoir certaines opérations militaires si jamais on venait à attaquer des expatriés chinois sur le continent, par exemple.
Sébastien Lebelzik du site chinafrica.info. Il était joint à Pékin par Nicolas Pinault. Rubrique santé à présent. Le dernier cas connu d'Ebola en Guinée, une petite fille de 3 semaines dont la mère est décédée à la naissance, a été officiellement déclarée guérie lundi. Plus de détails sur cet heureux dénouement avec Jacques Aristide.
C'est du moins ce que rapporte l'AFP, citant l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières. Le bébé, dont la mère âgée de 25 ans a succombé au virus après l'avoir mis au monde le 27 octobre, était soigné au centre de traitement d'Ebola de MSF à Conakry. Prénommée Noubia, comme l'infirmière qui a aidé sa mère à accoucher, la petite fille ne présentait plus aucun signe négatif. Mais prudence tout de même, Laurence Assaï de MSF Guinée a indiqué que comme il s'agit du premier bébé contaminé à avoir guéri, elle continuerait à recevoir un soutien médical avant de retourner chez elle. La fin de l'épidémie pourra être déclarée si aucun nouveau cas n'est signalé dans 42 jours, c'est-à-dire vers la fin décembre.
Rubrique éducation pour finir l'émission. Ouverture mardi dernier de la réunion annuelle de l'Initiative des Nations Unies pour la scolarisation des filles. Pour un point sur la situation au Mali, Kadiatou Traoré a joint Madame Maïga Kadidia Babi du réseau Forum of African Women Educationalist. Elle est coordinatrice nationale donc de ce réseau au Mali. C'est également l'ancienne coordinatrice nationale du projet sur la scolarisation des filles au Mali. Elle parle des objectifs de la réunion, des enjeux pour le Mali et pourquoi le choix du Mali. Écoutons Madame Maïga Kadidia Babi.
C'est un forum qui a été organisé par Ounge Blanc et UNICEF et qui a convié d'autres partenaires tels que FAWE, qui est le forum des éducatrices africaines. C'est un forum qui a pour objectif de parler de la création d'éducation des filles en Afrique en général, au Mali en particulier, parce que c'est un forum sur le Mali post-crise, pour voir depuis la crise de 2012 et dans le cadre de l'agenda post-2015, qu'est-ce qui est prévu pour l'éducation des filles, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous devons faire pour aller vraiment de l'avant par rapport à la situation.
Après plus de 5 années de lutte. Peut-on dire aujourd'hui qu'il y a eu des progrès notoires dans le domaine de la scolarisation des filles au Mali? Le niveau a-t-il évolué?
Le niveau, il est assez moyen parce que si tu prends une cohorte de 100 élèves, c'est peut-être 46 filles seulement qui vont finir leur cycle et qui sont effectivement dans le système. 46%, c'est peu. Nous savons, c'est vrai que la crise y a contribué parce qu'avec la crise, les 3 régions du Nord ont été complètement fermées. Donc les élèves n'avaient pas, filles et garçons, n'avaient pas accès à l'éducation. Mais D'autant plus que les filles étaient déjà en situation de défaveur pour la disparité, ça aggravait leur situation. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la situation, elle est pénible pour nous qui nous battons tous les jours sur cette problématique, en laquelle nous croyons énormément, parce que moi, je crois vraiment que le développement passe par l'éducation de la femme, parce que la fille, c'est la future femme. Si nous tenons compte vraiment du statut de la femme dans la famille, vraiment du rôle de la femme sur le plan entretien familial, sur le plan sanitaire, sur le plan éducation, les enfants qui sont fils ou garçons passent déjà par la maman d'abord pour pouvoir peut-être s'émanciper d'elle si ce sont des garçons à un certain âge. Donc cette maman, si elle n'a pas les compétences de garçon, elle n'est pas éduquée. Et moi, je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut avoir le minimum, c'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire le mieux, c'est d'avoir l'éducation jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce qu'elle termine. Mais vraiment, à défaut de ça, qu'elle ait accès au moins à l'instruction, qu'elle connaisse, qu'elle ait les compétences de base.
Quels sont les enjeux de ce forum pour le Mali?
Les enjeux, c'est d'abord le fait d'amener tous les partenaires autour de la question. Nous en sommes très, très contents parce que ça veut dire que c'est en train d'être pris à un autre niveau. C'est vrai qu'il y a déjà l'engagement du gouvernement, il y a l'engagement de la société civile malienne, mais aujourd'hui, nous avons quand même des partenaires venant de partout. Ungay, c'est quand même l'initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, c'est mondial. Donc, avec le bureau régional de l'UNICEF, l'UNICEF ici, plan international, FAWE, qui est le forum des éducatrices africaines, toutes ces organisations vraiment qui s'activent autour de la problématique sont là aujourd'hui pour voir où est-ce que nous en sommes vraiment, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant, qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment pour améliorer la situation. Pour nous, c'est déjà la tenue de ce forum est une note d'espoir en soi. Nous verrons, en tout cas, pendant 3 jours, nous serons là jusqu'au 19. En tout cas, nous allons faire tout pour que des résolutions très fermes puissent être prises et nous allons faire le suivi de ces résolutions. Et avec l'État et avec les PTF et avec la société civile, chacun jouera sa partition pour que vraiment la situation d'éducation des filles soit ce que nous attendons. Parce qu'elle est essentielle.
Maïga Khadidia Babi, responsable du Forum of African Women Educationalists au Mali. C'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Lionel Gaïmard. À la console, Nelson Lopez. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. D'ici là, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, VOA Celplus. Nous nous quittons en musique avec le groupe Aaron Otignon et leur Starfish. Ce jazz fusion qui mêle les influences des musiques africaines, caribéennes et océaniennes avec une touche d'électronique. Très bonne soirée et bonne nuit à tous.